Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Une semence, comme il a expliqué, on le fait pour honorer le Seigneur, parce qu'on l'aime. Hein? Et une fois, j'avais expliqué ça au Miracle Channel, c'était pendant un téléthon, puis j'ai dit, quand on fait ça, on le fait pas parce qu'on veut recevoir, mais on sait que quand on va obéir à Dieu, puis on fait ce don-là pour l'honorer, qu'il avait déjà fait la promesse comme quoi on était pour recevoir en retour. Donc, le motif de notre cœur, c'est pas pour recevoir, c'est pour le bénir et faire avancer l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Mais comme on le fait, on sait automatiquement que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Alors, c'est sûr que le Seigneur est toujours fidèle à sa parole. Alors, on va prier pour l'offrande et puis on va aller directement à l'enseignement de la parole. Et amen. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta fidélité envers nous. On te remercie, Seigneur, que même quand nous, on n'est pas fidèles, Seigneur, toi, tu ne changes pas et tu demeures fidèle. On veut te remercier pour la provision que tu nous donnes à tous les jours. Et Seigneur, on veut t'honorer ce matin, te dire comment qu'on t'aime et comment on te met au premier plan, Seigneur, dans notre liste de priorités. Tu es numéro un, Seigneur Jésus, dans nos vies. On t'aime, Seigneur, et on veut te louer ce matin par ce geste d'adoration. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Alors, on va distribuer les paniers pour les 10 000 offrandes, et puis on va s'en aller à la prédication de la parole ce matin. Vous savez, on continue dans notre série sur la famille. Amen. Oh, aussi, juste vous laisser savoir avant de la prédication. Donc, la semaine prochaine, on va commencer un enseignement qui s'appelle « L'essentiel en leadership », tel que j'ai enseigné à l'Institut biblique BPEA, Timothée, à Ottawa, et sur Miracle Channel School of TV Ministry. Tous ceux qui passaient par cette école-là allaient et passaient à travers un cours au complet sur le leadership, mais comme vous savez, on va pas passer des semaines et des semaines à l'enseigner, mais je vais quand même donner une prédication qui va faire un survol d'une école de leadership que j'ai offert là-bas. Alors, vous pourrez prendre ça en note pour la semaine prochaine concernant le leadership. Amen. Est-ce qu'on est prêt maintenant à aller à la parole de Dieu? Je ne vous gardais pas plus longtemps, même si ça a été plus long aujourd'hui, à moins que Dieu nous visite surnaturellement et qu'on est ici jusqu'à demain matin. Amen. On est ouvert à ça, mais je ne fais pas des plans d'étirer ça. Je planifie pour que le Seigneur va nous donner tout ce qu'on a besoin dans le temps qu'on a. Alors, on va pencher nos têtes maintenant, on va remettre ce temps au Seigneur. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta présence qui est ici. On veut te remercier, Seigneur, pour la révélation que tu veux nous donner. Aujourd'hui, on rend toutes nos pensées captives à ton obéissance, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, de me donner, Seigneur, la sagesse à communiquer qu'est-ce qui est sur ton cœur et que les auditeurs puissent également avoir, Seigneur, l'écoute ce matin des choses, Seigneur, qui sont sur ton cœur qu'on va discuter ce matin. On a prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, ce matin, le thème, c'est la bénédiction générationnelle. Vous savez, il y a toute une mode dans le corps de Christ. Il y a toutes sortes de modes. Et comme j'ai prêché il y a deux semaines, on n'est pas une église à la mode concernant la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit une chose, même si les courants changent, vous savez que nous, on reste là. On ne va pas plus loin que la parole de Dieu. Et les gens vont même dire, mais vous êtes démodés. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai rencontré une jeune fille de mon enfance, une petite voisine, et puis je l'avais évangélisée souvent, et elle avait même accepté le Seigneur comme une petite fille de 10 ans. Et plus tard, elle était rendue qu'elle croyait dans la réincarnation, et toutes sortes de choses. Puis elle me dit, elle était un petit peu frustrée. Elle me dit, Joël, elle dit, tu me dis-tu que tu vas vivre toute ta vie selon ce livre noir-là. Toute ta vie, tu vas mettre ça conforme à un livre. Puis j'ai dit, oui. Toute ma vie, je vais la mettre conforme à ce livre-là, parce que ce n'est pas juste un livre, c'est la lettre d'amour que Dieu a écrite pour nous. Et quand on sert la parole de Dieu, puis quand on met la parole de Dieu en pratique dans nos vies, on est béni, on est heureux. Amen. Je l'ai vécu dans ma vie, et je peux vous témoigner que depuis l'âge de 4 ans, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, que j'ai vraiment été guidé par Dieu. Et quand Dieu nous guide, il ne nous guide pas vers des précipices, et il ne fait pas tomber en bas d'une montagne. Non, il nous guide. Hein. Vous pourrez lire le psaume 23, vous connaissez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me guide dans de verts pâturages. Hein. Il ne me guide pas dans le désert où je vais mourir de faim. Non, mais le Seigneur veut qu'on soit rassasié par la parole de Dieu. Mais il faut lui donner le temps, il faut simplement regarder, voir qu'est-ce que Dieu dit pour nous et l'appliquer et recevoir ça dans nos cœurs et on va être bénis. Mais tout ça, ceci dit, c'est qu'il y a toutes sortes d'enseignements sur la malédiction générationnelle. Ça a été très populaire et même quand j'étais en Alberta, j'entendais des gens parler de ça. On entendait ça à la télévision, des gens qui parlaient de la malédiction générationnelle. Et moi, je voulais être ouvert d'esprit quand même parce que je prétends pas tout connaître. Hein. On est dans un cheminement et le Seigneur nous enseigne constamment. Et autant et aussi longtemps que je suis sur cette planète, moi, j'ai comme objectif de grandir dans les voies de Dieu. Je prétends pas tout savoir. Mais quand j'entendais des gens parler de ça, je peux vous dire que ça grichait en dedans. Savez-vous qu'est-ce que je veux dire quand ça griche? Quand vous n'êtes pas dans la paix, vous vous sentez, il y a de quoi qui fit pas, ça passe pas. Et puis, non seulement j'avais la conviction de l'esprit qu'il y avait des choses pas correctes, mais la parole de Dieu m'indiquait le contraire des discours qu'on entendait. Et moi, en tant que berger, ma responsabilité auprès de Dieu, c'est de m'assurer que les brebis qui sont dans cette bergerie soient avisées et protégées des choses qui circulent, qui sont à la mode. Parce que mon désir, ce n'est pas d'être à la mode. Mon désir, c'est d'emmener le conseil de Dieu pour que vous puissiez marcher dans la liberté et marcher de gloire en gloire et dans la victoire. Ça, c'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Et moi, ma responsabilité, c'est de vous livrer ce que le Seigneur me dépose sur mon cœur. Puis je sais, des fois, je prêche des messages difficiles. Mais savez-vous, il faut que je prêche ce que Dieu me dit de prêcher. Même si moi, ça ne me tente pas. Je peux vous dire, souvent, c'est comme, ça ne me tente pas. Et même hier soir, avant de me coucher, le Seigneur m'a déposé dans mon cœur un texte. Alors ce matin, je vais vous inviter à tourner dans la parole de Dieu et je vais lire ça. Ce n'était pas dans mes notes, mais je veux vous démontrer ici juste une chose concernant le cœur de Dieu pour ses enfants. Et c'est dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Et je vais juste vous expliquer un petit peu le contexte ici de l'histoire. Il y avait David qui voulait bénir un des descendants de Jonathan. Vous connaissez l'histoire. Et puis finalement, on lit au verset 1. On va commencer au premier verset. 2 Samuel chapitre 9, commençant au verset 1. Et ça, c'est le texte qui est venu sur mon cœur hier soir, avant de me coucher. Puis je sentais vraiment que le Seigneur voulait parler à quelqu'un ce matin avec ce texte. C'est dit, « David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» à cause de Jonathan. Vous vous rappelez là, que dans 1 Samuel 18, 3 à 4, que Jonathan et David avaient établi une alliance d'amitié ensemble. Et là, David ici, il voulait bénir quelqu'un de la maison de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Vous voyez ici, Mephibosheth avait peur de David, il avait peur de lui, mais tout de suite, David dit, non, je t'ai appelé ici, c'était pour te faire du bien. Et dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que David, c'est comme un type de Jésus, et qui vient nous chercher. Vous savez, avant de connaître le Seigneur Jésus, et pendant que tous les êtres humains étaient dans le péché, le Seigneur avait décidé qu'il était pour venir sur la terre, mourir sur la croix pour nous. Et ce n'était pas nous qu'on lui a demandé, viens s'il vous plaît mourir sur la croix, mais c'était le cœur de Dieu qui s'était manifesté pour nous les perdus. Et puis on voit ici dans ce texte-là que le Seigneur a voulu faire l'impossible pour lui et prendre soin. Et on peut lire tout le récit, on ne lira pas tout, mais on voit que le cœur de Dieu pour cet homme-là, c'était de le bénir à cause de Jonathan. Et on voit ici, d'une certaine façon, la bénédiction générationnelle. Et ce matin, en tout cas, moi, j'avais juste à cœur de vous lire ça. Et c'est le Seigneur qui me l'a déposé. Peut-être que ça va vraiment parler à quelqu'un concernant le cœur de Dieu pour eux. Mais une des choses, moi, je peux vous dire que même si on parle de la malédiction qui règne dans le monde, tout ça, moi, je peux vous dire que je crois dans la bénédiction générationnelle. Je crois que Dieu veut bénir son peuple. Moi, je suis la 4e génération de chrétiens. Et Floramé, Félicité, c'est la 5e génération. Je peux vous dire, on voit comment Dieu bénit son peuple de génération en génération. C'est le cœur de Dieu. Et Dieu veut qu'on se préoccupe de cette bénédiction-là. Il veut que nos yeux soient sur lui, la source de toute bénédiction. On le regarde, on tourne nos regards vers le Seigneur et la parole de Dieu nous dit qu'on est rayonnant de joie. Si ce matin, on est déçu par notre vie chrétienne ou si on est triste, si on est découragé, regardez au Seigneur encore. Parce que quand on regarde à lui, on ne se décourage pas. Mais non, la joie de Dieu nous envahit. Amen. C'est ça qui se passe quand on tourne nos regards vers le Seigneur. Mais des fois, quand on a des problèmes dans notre vie, les gens se cherchent une raison. Mais pourquoi que j'ai ce problème-là? Ça fait longtemps que j'essaie de me libérer de ce problème-là. Et on recherche à droite et à gauche. Et tout d'un coup, il y a un discours qui commence à circuler dans le corps de Christ. Et là, on se dit, ben peut-être c'est ça mon problème. Et je vais vous donner le discours. C'est que la malédiction générationnelle, l'enseignement typique, c'est que Dieu va maudire une personne et ses enfants jusqu'à 3 et 4 générations. Et là, si on vit une malédiction à quelque part où on vit des problèmes, on se dit, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père vivaient dans le péché et moi aujourd'hui, je vis dans le péché à cause de ça et finalement, je suis quasiment pas responsable, je suis en train de vivre simplement le résultat de cette malédiction-là. Alors ce matin, on va regarder l'enseignement présent qui circule dans le corps de Christ pour ensuite revenir et voir qu'est-ce que Dieu en dit. Amen. Ça qui est important, c'est voir qu'est-ce que Dieu en dit. Alors on va regarder dans Exode chapitre 20 et le verset 5 à 6. Pourquoi cette mode dans l'Église? Je peux vous dire que quand j'étais en Alberta, j'avais été chercher le prédicateur Steve Hill, qui était dans le réveil en Floride il y a quelques années. Et puis, j'ai passé pendant 2h30, j'avais été chercher à l'aéroport de Calgary. Alors, on a pu conduire de Calgary à Lethbridge. C'est un voyage d'environ 2h30. On s'est mis à parler ensemble, à discuter des choses de Dieu. Et j'ai eu l'opportunité de poser la question. J'ai dit, c'est quoi vous en pensez, vous, de cet enseignement-là qui circule? Puis il me dit, Joël, moi, je ne crois pas là-dedans. Il dit, j'ai vu tout le contraire dans mes réunions. Il dit, je l'ai prouvé à maintes reprises, cette chose-là, que ce n'était pas vrai. Mais vous allez comprendre, je vais quand même préciser des choses après, que je prétends pas qu'il n'y a pas un combat spirituel. Mais il faut juste comprendre les choses à la lumière de la parole. Donc, dans Exode, chapitre 20, versets 5 à 6. Voici le texte qui est populaire, le texte clé que les gens vont utiliser pour créer cette doctrine-là. Exode, chapitre 20, versets 5 à 6. Tu ne te prosterneras point devant elles, ici on parle des images, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La compréhension juive, à l'époque, ils ont pris ce texte-là pour dire, justement, bien, si je vis dans le péché, si j'ai des problèmes, et je peux voir, admettons, mon père est alcoolique, mon grand-père est alcoolique, mon arrière-grand-père est alcoolique, donc, moi, si je suis alcoolique, c'est à cause de ça, et puis, justement, c'est ma raison, et je vis ma réalité, c'est un reflet des générations antérieures, c'est à cause de mes ancêtres. Avez-vous entendu ça, quelqu'un ici? Quelques personnes. Donc, il y a cet enseignement-là, et une des choses, je veux faire une parenthèse, je crois certainement qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes et que ces esprits-là peuvent certainement attaquer une génération à l'autre. Je crois ça. Savez-vous pourquoi? Parce que les esprits méchants dans les lieux célestes sont plus vieux que nous. OK? Les démons qui étaient là, il y a 100 ans, sont encore aujourd'hui, ils circulent encore, ils font encore des ravages. Et certainement, si, admettons, mon grand-père avait un péché, ça se peut fort bien qu'un démon qui attaquait mon grand-père revienne m'attaquer. Ça se peut bien. Mais c'est pas relié avec le texte que je vous ai lu. On a construit une doctrine là-dessus avec Exode 20, et moi, je crois que c'est une doctrine qu'on a. On a construit quelque chose et on n'a pas la base pour dire qu'est-ce qu'on dit. Parce que dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, ça dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors certainement, on peut avoir des attaques, ok, une attaque d'un démon qui a attaqué mon grand-père. Certainement, j'ai pas de problème avec ça. Vous comprenez, vous me suivez, parce que les esprits méchants sont plus vieux que nous, alors ils peuvent faire ça. Mais ce n'est pas à cause de mon grand-père que je vais nécessairement avoir une attaque. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? On voit le contexte. Premièrement, c'est un discours à Israël. C'est important de savoir à qui qu'on parlait ici. Donc, c'est un discours qui était à la nation d'Israël. Et une autre chose qu'on doit comprendre, le texte Exode 20, on parle de deux camps. Ceux qui aiment Dieu et ceux qui l'haïssent. Donc, si vous haïssez Dieu et vous marchez dans le péché, Dieu est en train de dire ici que oui, il y avait une malédiction ou une punition générationnelle. Et pourquoi qu'il y avait cette punition générationnelle pour ceux qui haïssaient Dieu? Mais parce que si on haït Dieu, on va agir comme nos pères. Admettons que mon père était un alcoolique, il vivait le péché, et j'ai vu son modèle de pécheur, et moi je décide d'haïr Dieu comme lui haïssait Dieu, bien moi aussi je vais vivre la punition divine, parce que je marche dans ses pas, comprenez-vous? Si je décide de changer de camp et de faire de partie de ceux qui aiment Dieu, je ne suis plus sous une punition générationnelle, comprenez-vous? Il y a des gens qui vont dire, maintenant t'aimes Dieu, mais t'es encore sous la punition générationnelle et il faut briser la punition. Je peux vous dire, comment est-ce qu'on arrête une punition? On arrête de faire le péché qui amène la punition. Comprenez-vous? On dit à notre enfant, fais pas telle affaire, et puis ils font, on dit, ben là, t'auras pas le droit de sortir de ta chambre de la fin de semaine, admettons. C'est la punition. Mais si l'enfant dit, ben moi, je vais arrêter, je vais t'obéir, papa ou maman, bien là, à ce moment-là, ils n'ont pas la punition, ça vient d'arrêter la conséquence qui s'en venait. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pourquoi je vous raconte ça ce matin? Pourquoi qu'on parle de ça? C'est parce qu'il y a des modes qui circulent, et qu'est-ce qui peut se passer? C'est que vous, si vous avez un problème, vous entendez toutes ces choses-là qui circulent, et là, vous allez dire, bien, est-ce que c'est ça que je dois croire? Est-ce que c'est ça ma solution? Et aujourd'hui, je vais vous ramener à la croix. C'est là l'endroit où nous avons été affranchis en Jésus-Christ. Il faut revenir à la parole de Dieu puis dire, sais-tu, moi, je fais partie du camp de ceux qui aiment Dieu. Et si j'aime Dieu, je ne suis plus sous une punition générationnelle. Maintenant, je suis une bénédiction générationnelle. Et je vais commencer à décréter ça sur ma famille. Moi, bon, 4e génération, mes enfants, 5e génération, on est bénis. On va de gloire en gloire. On remercie le Seigneur pour ses promesses. Toutes ses promesses sont oui et amen. Sont pas oui, mais si seulement tu n'étais pas sous cette punition générationnelle-là. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on croit ces choses-là, on met des barrières entre nous et la provision divine. Et c'est le plan de l'ennemi de nous envoyer dans un détour, qu'on ne reçoive pas la plénitude de la bonté de Dieu. Dieu est tellement bon et il veut que ses enfants puissent vivre sa bonté, qu'ils puissent découvrir comment il est véritablement bon. Amen. C'est important. Alors, je viens un petit peu à la défense de mon Dieu ce matin. Alors, on comprend le texte. Donc, la punition était liée au péché. Il y a et également, on comprend le contexte, ça s'adressait à la nation d'Israël. Une autre chose qu'on doit comprendre ici, le texte, on l'a lu, vous pouvez relire. Le sens de la punition générationnelle, finalement, je n'ai pas besoin de mes PowerPoint quasiment. Le sens, j'explique une autre chose. On va regarder comment ça fonctionnait à l'époque. On comprend, bon, la loi de la gravité. Dieu a instauré cette loi-là. Si vous vous jetez en bas d'un bâtiment, vous allez tomber, n'est-ce pas? Même si vous dites, ouais, mais moi j'ai la foi là que je vais voler, mais si vous vous jetez en bas, la loi de gravité dit, vous allez tomber en bas. Vous comprenez? C'est une loi établie. Dieu a établi une autre loi. Ah, juste avant, je vais vous dire, il y a l'enseignement qui circule également dans le corps de Christ qui dit que Dieu est au contrôle de tout. On va dire, bien, c'est vrai, Dieu est au contrôle de tout. Dieu est souverain, c'est très important. Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu a choisi de donner à l'être humain de l'autorité. Nous avons tous le choix de dire oui à Jésus ou non. On a le choix de se lever le dimanche matin, de rester dans notre lit ou de venir à l'église. On a tous des choix. Mais oui, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu nous a donné cette autorité qu'on doit prendre. Et si on prend, par exemple, l'exemple que je viens de vous donner sur la gravité, quelqu'un se jette en bas d'un bâtiment, il y a des gens qui vont dire « Dieu l'a tué ». Vous allez dire « Ah, oui, il y a un certain mouvement dans le corps de Christ qui dit que puisque Dieu est au contrôle de tout, même si cette chose-là avait été ordonnée de Dieu et Dieu, en fait, l'a tué. J'étais dans des funérailles, la personne s'était suicidée et le pasteur a dit « Merci Seigneur d'être venu chercher cette personne ». Je m'excuse, ce n'est pas Dieu qui est venu chercher la personne, c'est la personne qui a pris son autorité, sa décision personnelle et a décidé d'en finir avec sa vie. Il faut revenir à la parole de Dieu et oui, Dieu est souverain, mais à quelque part, Dieu s'attend qu'on va marcher et on va marcher selon sa parole et qu'on va prendre les décisions qui sont conformes à sa parole. Si vous marchez en dehors de la volonté de Dieu et vous vous ramassez avec plein de problèmes, ce n'est pas gloire à Dieu pour cette chose-là. J'écoutais cette semaine à la radio un prédicateur qui disait « Faut remercier le Seigneur pour toutes choses. » Et j'ai dit « Non, faut remercier le Seigneur en toutes choses. Je remercie pas le Seigneur pour un accident d'auto. Je le remercie, merci Seigneur parce que tu as préservé ma vie dans l'accident d'auto. » Il y a une différence, enfant de Dieu. Il y a une différence, mais on prend Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Oui, quand vous priez. Le contexte 26-27 nous exige de prier. Si vous priez, Dieu est capable de prendre la mauvaise situation et la virer pour votre bien. Amen? C'est ça la parole. Donc, la loi des semences. Ça, c'est la loi que Dieu a établie. Galates 6, verset 7. 7 à 8, je vais vous lire. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Donc, Dieu a établi une loi. Et si on marche selon sa loi de semence, de semer dans les choses de l'esprit de Dieu, on va récolter la vie. Parce que Dieu, c'est un Dieu de vie. Amen. Donc, c'était ça que Dieu avait établi dans Exode 20 concernant la punition générationnelle. C'est comme on choisissait de marcher contre sa volonté, on faisait partie du camp de ceux qui haïssaient Dieu, on récoltait la punition. Et la preuve pour ça, OK, c'est dans Matthieu 23, 32. Matthieu 23, 32, ici, il est écrit, « Eh bien, ce que vos pères ont commencé, portez-le à son comble. » Donc, vos pères faisaient telle chose, vous voulez marcher comme eux, portez-le à son comble. Allez-y jusqu'au bout. Donc, la punition demeurait sur les enfants qui pratiquaient le péché. Mais là, la grande révélation qu'on a besoin, c'est dans Ézéchiel 18. Et je vais lire du verset 1 à 19. Et là, ce texte-là, ça contredit tout l'enseignement qui circule, les livres, les séminaires, il y a toutes sortes de choses qui circulent, des émissions de télévision, tout le monde en parle, les malédictions générationnelles. Et aujourd'hui, je ne dis pas ça pour me moquer, parce que moi-même, j'ai lu des livres là-dessus. Quand tout le monde en parlait, je me suis dit, mais je veux voir, est-ce que j'ai manqué quelque chose dans ma lecture biblique? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre sur ces choses-là pour que les gens puissent vraiment vivre la liberté? Alors, j'ai étudié l'affaire, je me suis interrogé, j'ai parlé avec des pasteurs, et puis il y en a qui étaient pour, il y en a d'autres qui étaient contre. Qu'est-ce que Dieu en dit? C'est ça qui compte en réalité. Et aujourd'hui, je ne dis pas ça par méchanceté, mais je veux que vous compreniez ici que Israël se servait d'Exode 20 comme excuse pour vivre dans le péché. Et voici ce que Dieu en dit. Ézéchiel chapitre 18, il est écrit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe, pas le proverbe là, qu'on retrouve dans la parole, mais ce proverbe dans le sens, cette expression. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées? « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez pas plus lieu de dire ce proverbe en Israël. » Là, on vient de voir la date d'expiration de ce texte. Okay? « Vous n'aurez plus à dire ce proverbe en Israël. » Verset 4, « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Verset 19, « Vous dites, « Pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. » Voyez-vous? C'est-tu clair? Verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Je ne peux pas être plus clair que la parole. Dieu dit, « Vous avez dit ça, vous servez de ça comme excuse. » Vous n'aurez plus de place à vous servir de ce texte-là. J'emmène la clarté là-dessus par le prophète Ézéchiel, puis il dit, c'est pas vrai, c'est pas la façon dont vous comprenez ça, c'est erroné. Donc, si on comprend ça aujourd'hui, finis la crainte d'être sous une malédiction. Non, moi, je fais partie des bénis de Dieu parce que je fais partie de ceux qui aiment Dieu. Et parce que je marche dans les préceptes de Dieu, je suis béni. Et vous pouvez dire la même chose. Moi, je ne suis pas maudit. Je n'ai pas maudit sur mon front. Non, moi, c'est la bénédiction qui repose sur moi. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je n'ai aucun chagrin dans la bénédiction de l'Éternel. Mais ça dépend qu'est-ce qu'on croit. Dans 1 Jean 5, 18, il faut tourner là, c'est vraiment important. Hier soir, j'étais en train de... Moi, là, mes prédications finissent dans la louange, la préparation. 1 Jean 5, 18. Ce texte-là, très important. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Croyez-vous ça? Luc 10, 19. Un autre texte, on va lire rapidement. Luc, chapitre 10 et le verset 19. Il est écrit. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Pourquoi? Parce qu'on est béni, on marche avec le Seigneur. Et comme j'ai dit au début, la parenthèse que j'ai ouverte tantôt, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des esprits générationnels qui se promènent dans le sens qui sont là depuis des siècles. Parce qu'on regarde des régions au Québec, on peut voir certaines régions, il y a beaucoup d'inceste. Savez-vous ça? On regarde là, la carte géographique, on sait que dans certains coins, il y a l'inceste dans ce coin-ci. Dans un autre coin, c'est plus des meurtres. Il y a des coins comme ça, on peut voir au Québec, qu'il y a une domination d'esprit dans ces coins-là. Mais pour l'enfant de Dieu, qui se retrouve dans un coin comme ça, et quand vous changez d'armée, quand vous changez de camp, là, vous n'êtes plus sous la domination de ces choses-là. Comprenez-vous? Amen. Alors, j'essaie de finir rapidement. Je suis rendu à la moitié de mes notes. Gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. OK, donc, si vous voulez entendre parler de la bénédiction, on va en parler. Nous ne sommes pas bénis et maudits en même temps. OK, vous pouvez prendre ça comme note. Je suis béni, je ne suis pas maudit. C'est merveilleux. Dans Genèse 12, verset 3, Dieu a dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, en parlant à Israël, Abraham, tout ça, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et Nombre 22, verset 12, Dieu a dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Car il est béni. Cette bénédiction, c'est une force spirituelle dans ma vie. Vous savez, les premières paroles que l'être humain a entendues, c'était des paroles de bénédiction. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il est béni et il a dit « Soyez féconds ». C'est les premières paroles que l'être humain a entendues, c'était des paroles de bénédiction. Parce que c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils soient bénis, qu'ils marchent dans la joie, dans la paix. Mais l'ennemi, lui, veut le contraire. C'est simple, l'ennemi veut voler qu'est-ce que Dieu veut donner. Et dans Galates 3, 13, il est écrit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Alors ce matin, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que si Christ a déjà payé pleinement le prix de cette malédiction qu'on retrouve dans Deutéronome 28, pourquoi est-ce que je devrais marcher comme si j'étais maudit? Mais Christ m'a racheté de cette malédiction-là et m'a donné la bénédiction aujourd'hui. Amen? Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre Deutéronome 28 et toutes les places qui disent comment on est béni en Dieu, c'est ça que je vais croire et c'est ça que je vais proclamer et c'est ça que je vais décréter sur ma famille. Savez-vous, avant de coucher vos enfants, si vous n'avez, le soir, là, commencez à bénir vos enfants. Moi, je dis à Florame, à Félicité, vous autres, vous êtes les meilleurs. Dieu vous aime, ça va bien à l'école. Je décrète ça va bien à l'école, je décrète la protection sur ta vie, je décrète que tu es proche de Dieu et je commence à bénir mes enfants. Et mes enfants, là, le font aussi, ils sont habitués. C'est quelque chose qu'ils entendent depuis qu'ils sont au monde. Savez-vous, l'autre fois, on parlait des enfants. Vous savez, dans le temps de Noël, là, il y a des organisations qui bénissent les gens en Afrique, des enfants qui sont dans le besoin. Il y a des boîtes aussi. Vous savez, on peut remplir des cadeaux, tout ça, et remettre des cadeaux à des gens qui sont pauvres. Et Félicité, qui a 3 ans, 4 ans, elle dit, « Oh, faut aider les pauvres. » Puis elle parle « les pauvres ». Puis je disais, « Félicité, toi, t'es-tu pauvre? » Elle dit, « Moi, je suis béni. » C'était ça. « Je suis béni. » Mais c'est drôle parce que son nom, c'était comme, comment qu'elle avait dit ça, là? C'était comme, « Moi, non, elle dit, « Moi, je suis béni. » C'est ça, sa réaction. C'est comme, « Yes. » Moi, je suis béni. Ça ne veut pas dire que si on est pauvre, qu'on ne peut pas être béni. C'est pas ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Sa perception personnelle, c'est qu'elle est bénie par Dieu. Et puis, s'il y a des temps de disette, ben, on garde notre foi en Dieu et on sait que Dieu prend soin de nous. Il va nous sortir de cette situation difficile. Amen? Donc, c'est là notre foi. Notre foi demeure toujours en Dieu, pas dans les richesses. Amen? Mais on connaît celui que l'or et l'argent, tout ça, lui, Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec les finances. Et quand on a des problèmes, on se tourne vers lui et on dit, « Seigneur, je te remercie pour la provision qui s'en vient. » Amen. Donc, prochaine chose qu'on veut faire, on veut connaître la bénédiction pour notre famille. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit connaître notre position en Christ. Notre position en Christ. On va regarder dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Là, ici, on parle de votre position parfaite en Christ. Puis après, on va voir comment y arriver. À être dans cette place-là. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ça dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, les choses passées sont passées, mais savez-vous, pour beaucoup de personnes, sont encore dans le présent. Les choses du passé sont encore dans leur présent parce que sont blessés et n'ont pas laissé le Seigneur guérir ces choses dans le passé. Alors, pour que cette chose, ce passage-là de la parole de Dieu, qui dit « Toutes choses sont passées dans notre position en Christ », faut le vivre dans notre condition en Christ également. Comment est-ce qu'on peut y arriver à vraiment le vivre, cette nouvelle identité en Christ? Bien, il y a l'étape du déchargement. Mais c'est quoi ça? 1 Pierre 5, 7, ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors, afin de vraiment vivre cette nouvelle vie en Christ, il faut se décharger sur Dieu de tous nos soucis. Vous avez des blessures, des choses. Savez-vous, c'est même correct de rencontrer un pasteur ou un leader ou de rencontrer quelqu'un dans le Seigneur et dire, moi, j'ai des choses que j'ai vécues et je veux me décharger de ces choses-là. C'est correct de prier ensemble et de remettre ça au Seigneur. Absolument. Il y a des gens qui disent, oh, ben, toutes choses sont nouvelles en Christ. Moi, là, on n'en parle plus. Puis, je comprends l'attitude de ne plus en parler, de ne pas vouloir vivre dans le passé, mais quand on ne laisse pas l'Esprit de Dieu guérir, qu'est-ce qui est en dedans, la blessure, il y a beaucoup de personnes qui marchent comme des boiteux. Et là, il y a des gens offensés, on leur dit, « Hey, t'as donc bien une belle coupe de cheveux. Merci. » Ah, oh, coudonc, elle n'aimait pas ma coupe de cheveux avant. Oh. Puis là, il y a des gens offensés comme ça qui interprètent tout mal parce qu'il y a des blessures. Il faut laisser Dieu guérir. Galates 6, 7, ça dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ça, c'était Galates 6, 2. Donc, c'est correct de porter les fardeaux les uns des autres. Moi, des fois, j'ai des gens qui viennent à mon bureau qui ont des problèmes, des tristesses. Je vais les écouter. Je vais les écouter et je vais porter le fardeau avec eux. Puis ça se peut que je vais même pleurer avec eux. Pourquoi? Parce que dans Romains 12, 15, ça dit « Pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est correct, ça, de recevoir des gens, d'entendre les problèmes qu'ils ont vécu dans le passé pour qu'ils puissent tourner la page et aller de l'avant. OK? C'est important, ça. Donc, je dis oui au counseling, mais surtout oui aux prédications. Savez-vous pourquoi? J'ai rencontré une autre personne qui est venue à mon bureau qui me dit, je t'ai parlé de plein de problèmes que j'avais autrefois, mais j'ai réalisé qu'avec la simple parole de Dieu, en écoutant les prédications, que ces choses-là sont guéries maintenant dans mon cœur. Savez-vous pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous libère. C'est la parole qui nous affranchit. Si vous venez à l'église sur une base régulière, à chaque dimanche, vous êtes là, mais le Seigneur fait du ménage, le Seigneur guérit, parce que c'est sa parole qui est la vérité. Amen. Donc, oui à tout ça. Mais aussi dans Jérémie 17, ça dit « Maudit soit l'homme », 17, 5 à 8, ça dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». L'affaire qui est le problème, c'est que quand dans le corps de Christ, si je reçois quelqu'un dans mon bureau qui vient se décharger des problèmes sur Dieu, mais en me racontant des choses que je puisse prier avec la personne, le problème, c'est quand il y a une dépendance qui devient sur l'homme, qui est donnée à l'homme. Et là, la personne ne pense pas qu'elle peut marcher avec le Seigneur par elle-même parce qu'elle est dépendante sur le pasteur ou quelqu'un d'autre. Alors, moi, je suis là pour recevoir la personne et ensemble, on peut porter ça vers le trône de la grâce et prier ensemble. Mais par la suite, il faut se rappeler dans Romains 8, 14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, quand on est un enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu en dedans de nous et c'est l'Esprit qui va nous guider dans la vérité. Mais certainement, Dieu a établi dans le corps de Christ justement un corps pour s'aider, pour s'entraider et de s'aimer et d'aider les gens à trouver la liberté en Jésus. Vous suivez qu'est-ce que je dis? Amen. Donc, la prochaine chose, donc l'étape numéro un, c'était l'étape du déchargement. On se décharge sur le Seigneur de ces vieilles choses afin de vraiment aller de l'avant. Et l'autre chose, c'est l'étape de la transformation. Comment est-ce qu'on peut transformer? C'est dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, je continue ce matin. Donc, si vous voulez vivre dans votre position à Christ, vous devez commencer à penser comme quelqu'un qui est en Christ. Comprenez-vous ça? Si vous pensez, ben oui, j'ai été sauvé, mais vous voyez encore comme le pécheur qui avait tous les problèmes du monde. Là, vous pouvez voir, hein, j'ai été purifié, j'ai été lavé dans le sang de l'agneau. Maintenant, j'ai plus tous ces péchés-là. Non, j'ai été libéré de ces péchés-là et je veux marcher dans la liberté d'un enfant de Dieu. On change notre façon de penser. On s'entretient avec des paroles de Dieu, Philippiens 4, 8, dans Ésaïe 43, 18, 19, ça dit « Ne pensez plus aux événements passés. Quand vous vous êtes déchargé sur Dieu, ne reprenez pas le bagage et le remettez sur vos épaules. » C'est ça le problème, c'est quand on s'est déchargé, puis après on le reprend. Moi, je dis c'est correct qu'on le fasse. On le fasse une fois. « Seigneur, je te donne. » Mais quand on l'a donné, reprends-le pas. OK? Ésaïe 43, 18, 19, ça dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est en arrière ou qu'est-ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Si vous êtes dans le désert aujourd'hui, le Seigneur vous dresse un chemin pour vous en sortir. Si vous êtes seul, le Seigneur est là auprès de vous. Il veut vous aimer, il veut se révéler comme étant ce Dieu d'amour qui a votre provision et votre délivrance. Mais la prochaine chose que vous devez faire, c'est discerner la théologie du tapis. Pour être sûr que vous compreniez. C'est quoi cette théologie-là qui circule dans le corps de Christ? Moi, je peux vous dire, là, c'est la chose numéro un que j'entends constamment au Québec, à la radio. C'est la théologie du tapis. Puis je pense, l'Église ici, la différence entre nous puis la majorité des Églises du Québec, c'est qu'on n'y croit pas à cette théologie-là. Je dis pas ça pour être hautain, mais mon cœur brise. Puis je vous dis ça aujourd'hui vraiment, j'entends ça. J'étais allé chercher mon Tim Hortons, mon café Tim Hortons. J'écoutais la radio chrétienne. Puis là, le pasteur disait comment tout est envoyé de Dieu. Tout était permis de Dieu dans la vie du chrétien. Puis il citait Romains 8, 28. Puis j'étais comme, non! J'étais dans mon auto. Non, c'est pas vrai. J'étais frustré que le corps de Christ se fait mentir. C'est de prendre des versets qui sont dans la parole, mais sortir hors de son contexte. C'est pas vrai que Dieu est souverain et que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui veut que ça pour toi. Non, Dieu est souverain et Dieu te dit, marche dans ma volonté. Amen. Amen. Donc, la théologie du tapis, c'est que Dieu est au contrôle, j'ai rien à faire. Et la souveraineté extrême qui dit, reste couché, attends. Attends, 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 fais rien, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, oui. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Dieu est au contrôle, mais quand Dieu a donné l'autorité à l'être humain, à Adam et Ève, et par la suite, il a cédé à Satan, qui est devenu le Dieu de ce monde, en 2 Corinthiens 4, 4, bien, par la suite, Jésus a repris l'autorité et l'a remis à son Église. Amen. Et qu'est-ce qu'on retrouve? L'Église a l'autorité de marcher comme des enfants de Dieu aujourd'hui. Dans Éphésiens 2, 20, je pense, ou 1, 20, ça nous parle justement comment c'est par l'Église qu'on va justement révéler la gloire de Dieu aux nations. 1 Pierre 5, 8, ça dit, soyez sobres, veillez. Voyez-vous Dieu, là, il ne dit pas, couchez-vous à terre et laissez l'ennemi vous s'essuyer sur vous. Non, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais comme l'enseignement que j'ai fait il y a quelque temps, je ne suis pas un chrétien comestible. Je suis non comestible. Le diable ne pourra pas me manger parce que je mets ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et je décrète, je suis béni, je marche dans mon héritage au nom de Jésus. Et l'ennemi, s'il veut venir, les démons du passé qui ont touché mes grands-parents, admettons qu'ils venaient dire, « Hey Joël, ton grand-père avait tel problème, donc toi aussi tu l'as ce problème. » Non, au nom de Jésus, je suis béni. Tu ne savais pas? Tu n'as pas remarqué? Je suis béni. Tu n'as pas le droit sur moi, tu n'as aucune autorité sur moi. Et là, par la suite, je comprends qui je suis en Christ. Là, j'ai besoin de vivre le commandement de Jésus. Je suis rendu à mon dernier PowerPoint. Matthieu 10, versets 7 à 8. écoutez bien ce que ça dit. Ça, c'est les versets qui me bénissent, qui disent que oui, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu nous donne de l'autorité. Ça dit « allez, prêchez ». C'est des verbes, ça. « Allez, sortez de votre maison. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Savez-vous, quand je prie pour quelqu'un qui est malade, je ne demande pas qu'il donne de l'argent pour que je prie pour eux. Faites attention à ça. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Oui, on croit semer dans l'Église parce que vous croyez dans la vision, certainement, mais je vais prier pour n'importe qui, n'importe quand. Qui donne une scène, 10 cents, 20 cents, ça ne change rien. Zéro cent. Comprenez-vous? C'est important. Ça dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On n'a jamais chargé pour des conférences. Pourquoi? Donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Une des choses, on peut charger pour une retraite, l'hébergement, finalement, savez-vous, on a juste payé. On n'est pas là pour faire de l'argent avec vous, on est là pour vous bénir, vous aider à marcher avec le Seigneur. Moi, ce n'est pas ma vision de charger à tout le monde des affaires. Même les cours qu'on va donner, le type victorieux, c'est gratuit. Pourquoi? Le Seigneur veut qu'on donne. Et quand on réalise que Dieu est notre source, je n'ai pas besoin de vous. Comprenez-vous? Non, mais c'est vrai, ce n'est pas pour vous insulter, mais c'est Dieu ma source. Je l'ai dit souvent. Alors, si je sers le Seigneur, puis si, vous, admettons, vous n'avez pas l'argent pour le donner, mais Dieu va trouver quelqu'un d'autre pour vous donner à votre place. Savez-vous ça? Amen. C'est vrai. Ça ne veut pas dire, bon, là, on va tous s'asseoir sur nos lauriers, puis on ne va jamais donner. C'est pas ça que je suis en train de véhiculer comme message. Mais on veut servir le Seigneur, on veut aussi prêcher n'importe où, peu importe, même s'il n'y a pas d'honoraire. On n'est pas dirigé par l'argent. Ah, c'est qui va donner plus? Cette église-là ou cette église-là? Ben, elle la paye plus, je vais aller prêcher là. Si Dieu dit, va à la plus pauvre où il y a moins de monde, c'est là où on va. C'est vrai, hein? Il ne faut pas être dirigé par l'argent, il faut être dirigé par Dieu et la parole de Dieu. Donc, le modèle de Jésus, si vous avez des problèmes, qu'est-ce qu'on fait devant des problèmes? On fait comme Jésus, Matthieu 4:4, qui dit, « Il est écrit. » C'est simple. Ça, c'est l'arme qu'on a pour avoir la victoire. « Il est écrit. » Reprenez les promesses de Dieu et dites, « Il est écrit. » Diable, va-t'en de chez nous. « Il est écrit. » Amen. Éphésiens, chapitre 6, 13 à 17, ici ça nous parle, justement, ça dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voyez-vous ici, Dieu nous appelle à résister à l'ennemi. Si vous écoutez un discours, puis ça dit, Dieu est tout au contrôle. Savez-vous, Dieu est tout au contrôle. L'affaire est, on aime ça entendre un discours dans la main parce qu'on se dit, je ne suis pas responsable, je peux être assis, puis Dieu est au contrôle. Quelqu'un qui m'a posé la question, mais pourquoi il y a autant de problèmes dans l'Église? Savez-vous pourquoi? Il y a tellement de gens qui sont assis et qui attendent que Dieu va faire quelque chose. Je sais, on aime ça, ce message-là, que Dieu est au contrôle et qu'on n'a rien à faire. On est assis là puis on attend, on attend, on attend, on attend. Mais Dieu, il n'a jamais dit de s'asseoir et d'attendre. Ça, c'est la chose numéro un qu'on doit changer dans la francophonie. C'est que Dieu, oui, il est au contrôle, mais Dieu dit « résister dans le mauvais jour ». Et il veut qu'on puisse tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Pourquoi? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça dit tous les traits. Ça veut dire qu'on vit dans la victoire. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc Dieu dit, oui, je suis souverain, je suis au contrôle, mais à travers vous aussi, je vais me servir de vous et je vais opérer ma puissance à travers vous. Et dans 1 Jean 5:4, ça dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors c'est pour ça que c'est important de bâtir notre foi. Et la seule façon qu'elle va grandir, c'est en écoutant la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est par la foi, c'est par la foi qu'on entend, comment donc j'ai un blanc de mémoire. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, comme on se remplit la parole de Dieu, notre foi grandit et on vit la plus de victoires. Et 2 Corinthiens 2,14, mon dernier texte ce matin, ça dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alors, moi, je peux marcher sachant que ma famille est bénie. Je suis béni. Je marche de gloire en gloire. Je me suis déchargé sur Dieu de tous mes soucis. J'ai pris cette opportunité, la bénédiction de faire partie du corps de Christ. Et les gens qui étaient autour de moi, ils ont pleuré avec moi, ils m'ont aidé dans ce que je vivais. Et maintenant, j'ai donné mon bagage à Dieu et je n'irai pas le reprendre. Maintenant, je me vois un saint de l'Éternel. Je me vois sauvé, lavé, purifié et je me vois triomphant. Amen. On ne retourne pas en arrière. Une fois qu'on a laissé le Seigneur guérir, gloire à Dieu, là, on est prêt, on marche par l'avant. Amen. Alors, ce matin, mon objectif, là, c'est de vous protéger des enseignements qui circulent. Faites attention à ce que vous entendez, parce que ça peut venir vous chicoter, ça peut venir enlever votre paix, ça peut même vous envoyer sur une route de cheminement. Il y a des gens qui prient, « Seigneur, montre-moi les péchés de mes ancêtres. » Ah oui, ton arrière-grand-père avait telle affaire. Et là, au lieu de se concentrer sur la victoire en Jésus-Christ, on se concentre et on va à la recherche des péchés de mes ancêtres. C'était pas dans la parole de Dieu. Puis si Dieu voulait qu'on fasse ça, ça serait écrit. Ça serait écrit dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul aurait dit, voici comment faire le bon ménage. Retournez, faites ci, ci, ci. Il aurait dit, n'est-ce pas? Il aurait dit, mais c'est pas là. Et il y a une raison que c'est pas là, c'est parce que c'est pas biblique. Et même le peuple d'Israël se servait de ces textes-là dans Exode 20, puis c'était même pas correct leur compréhension. La preuve, c'est Dieu a dû corriger par Ézéchiel au chapitre 18 pour dire, c'est pas ça, mes frères. Donc, si ce n'était pas ça dans l'Ancien Testament, qui sommes-nous aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, d'aller réemprunter un enseignement de l'Ancien Testament qui était même mal compris? Et là, maintenant, vendre des livres et tout ça. Ce n'était pas ça. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on puisse marcher dans la liberté à tous les niveaux et vivre dans la joie et d'être triomphant. Amen. Alors, je vais vous inviter à pencher vos têtes pendant que l'équipe de la louange s'avance. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui nous affranchit, qui nous donne la liberté, Seigneur Dieu. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es un bon Dieu. Tu as des bons projets pour tes enfants, des projets de paix et non de malheur. Merci, Seigneur, pour ces projets de paix. Et Seigneur, comme on te dit oui, comme on dit, Seigneur, je veux faire ta volonté, je sais, Seigneur, que tu nous bénis et tu nous guides par ton esprit dans ces jardins, Seigneur, de bénédiction. Et ce matin, s'il y a des gens qui sont ici, qui ont été remplis de problèmes, qui ont été découragés, s'il y a des gens par l'Internet aujourd'hui, des gens en Algérie qui nous écoutent, des gens au Nouveau-Brunswick aujourd'hui, on veut décréter sur vous la liberté au nom de Jésus-Christ. On décrète la liberté sur vous au nom de Jésus. On te remercie, Seigneur Dieu, que nous sommes véritablement affranchis par le Seigneur Jésus. On te remercie pour l'œuvre de la croix, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on décrète la liberté et on décrète la paix. Amen. La paix. Oh, amen. La paix que Jésus Alléluia. Donne. Gloire à Dieu, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.